Chapitre 66. En fin d'après-midi, apparaissent les premiers attelages branlants. Ils convergent vers la prairie, de plus en plus nombreux, venant de partout comme pour un rendez-vous secret. Ils arrivent par la route principale ou par les chemins de terre vallonnés qui serpentent à travers les champs, les vergers et les bois environnants. Tous se regroupent, aussi différents que les espèces animales ennemies qui s'autorisent une trêve pour se désaltérer autour du seul point d'eau d'un désert. Un point de ralliement sacré, attendu et respecté par chacun. Inclassable, indescriptible, ces drôles d'équipages affichent un même entrain à se rassembler là. Charrettes de foire et attractions roulantes se parquent au hasard. Les premiers arrivés seront les plus proches, créant une sorte de cité éphémère dont la place entourée de buvettes s'avère être l'épicentre. Hommes et femmes souvent habillés ou dévêtus de façon extravagante remplissent peu à peu les tables. Ils s'interpellent, se saluent et trinquent déjà. Difficile de dire s'ils sont serveurs ou clients, tant ils peuvent d'une minute à l'autre se retrouver derrière les comptoirs à trimer comme des soutiers ou assis à siroter comme des princes. Il apparaît rapidement qu'il n'y a ici ni client ni patron. Pas de roi, pas d'esclave. Chacun est un peu des deux selon le moment, de bonne grâce. Aucun spectateur, seulement des batteleurs de tout poil réunis entre eux, présentant leurs propres numéros ou racontant leurs aventures à d'autres qui feront de même à leur tour. Assis au sommet du talus, adossé à sa roulotte, Conrad observe le manège. Jamais il n'aurait imaginé qu'un tel lieu puisse exister. Lui et ses compagnons l'ont bien traversé hier soir lorsqu'ils y ont été conduits, mais ils n'étaient pas en état de se rendre compte de la particularité de l'endroit. Diseuses de bonnes aventures, jongleurs, nains et femmes à barbe échangent et rient ensemble. Tous ces phénomènes, ces animateurs de rue et ces troubadours, se mélangent aux bonimenteurs, prédicateurs et autres charlatans. Après tout, ils font un peu le même métier. Ils vivent de l'envie qu'ont les badauds de s'amuser ou de croire en échange de quelques pièces. Conrad s'attache à étudier chacun, fasciné et distrait par ce peuple de saltimbanques dont il ne soupçonnait rien. Depuis l'incendie de la pension, l'Allemand se montre étonnamment calme. Lui, toujours si prompt à donner son avis, se contente de rester assis, ne bougeant que si on l'y incite. À la pension, il était de loin le plus costaud et son statut de colosse à la voix grave était une évidence dont chacun tenait compte. Mais ici, à côté du géant qui veille depuis sa roulotte voisine, il ressemblerait presque à un enfant. Beaucoup des points de repère qui le structuraient ont été remis en cause ces derniers jours. La place centrale ne cesse de se remplir. Cette joyeuse pagaille ne s'organise qu'avec l'arrivée des premiers musiciens. Ce sont eux qui impose le rythme du lieu. Mais contrairement à ce qui se passe dans les établissements officiels, ils ne sont pas installés sur un podium, mais répartis partout, selon leurs envies et les rencontres. Parfois, de loin, ils se répondent, échangent, soutenus par les convives qui, spontanément, reprennent en chœur les refrains populaires. Il arrive même à certains de s'arrêter de jouer pour boire une chope ou discuter, mais il y en a toujours suffisamment qui s'accordent ensemble pour que l'ambiance soit assurée. Henri émerge de sa roulotte en s'étirant. Il bâille, puis réagit aussitôt à l'animation qui s'intensifie. « Que se passe-t-il ? »
« Je n'en sais trop rien, » répond Conrad, « mais ça vaut le coup d'œil. »
Le clou s'appuie sur sa rambarde et découvre avec étonnement la surprenante population qui ne cesse de se déployer à mesure que le jour décline. On dirait les mêmes qu'hier soir, mais où était-il dans la journée?
Victor le géant se mêle à la conversation.
Ils étaient à Paris, explique-t-il, en train de gagner leur pain. Certains y sont encore et arriveront plus tard.
Le menuisier avertit Henri. Je ne suis pas sûr que ce qui se passe dans ces parages soit un spectacle convenable pour une jeune âme.
Je suis plus un gamin, rétorque le clou bravache. « Tu sais, j'ai déjà vu une fille entièrement nue. »
Conrad se tourne vers lui, curieux. «
Bravo, mon garçon. Et de quand date ce miracle ?
Cet après-midi, à la rivière, derrière. Les filles s'y baignaient.
Le garçon rougit, ce qui amuse Conrad. L'animation sur la place attire à nouveau leur attention. Des centaines de petites lueurs émaillent désormais cet endroit étrange et grouillant. Chacune des lanternes détache de la pénombre un visage, une scène ou un événement de ce curieux kaléidoscope. Une femme exécute un tour de cartes devant une paire d'arlequins habillés exactement de la même façon. Deux hommes dansent, tendrement enlacés, encouragés par des femmes dont, même d'aussi loin, on peut apercevoir les dentelles. Un homme qui n'a qu'un bras a amené son cheval à table et lui commande une bière servie dans une écuelle. Victor le géant s'approche de Conrad et lui glisse. Sacré spectacle, pas vrai ?
L'Allemand hoche la tête en signe d'approbation.
Le gardien des ambassades confie. Voilà des années que je suis arrivé, et je reste aussi surpris chaque fois que la nuit tombe. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, ils rappliquent tous, et le cirque recommence. On ne retrouve jamais tout à fait les mêmes. Certains ne viennent que de temps en temps, mais il y a toujours bien assez de monde pour que l'on ne s'ennuie pas.
Qui sont ces gens ?
Ceux que Paris ne tolère que pour divertir son peuple. Le jour, ils sont à chaque coin de rue, dans les squares, devant les gares ou au pied des églises. Grâce à cette bande de mécréants, les citadins réveillent leurs instincts les plus sauvages ou leurs rêves enfantins. Les bourgeois adorent leur tour et leur jettent quelques piécettes. Mais lorsque vient le soir, plus personne ne souhaite les voir traîner dans son quartier. Considérés comme de sympathiques attractions au soleil, ils deviennent des voleurs sous la lune. Sitôt la fin du jour, ils sont chassés au-delà des enceintes.
Conrad reste songeur. Je ne m'étais jamais demandé ce que devenaient les camelots une fois leur étal replié.
Certains trouvent un abri de fortune en ville, mais beaucoup viennent ici. La police leur fait encore plus la chasse depuis l'ouverture de l'exposition. Ces créatures marginales ne correspondent pas à l'image que la capitale veut offrir d'elle-même. Alors le soir, ils se retrouvent entre eux, s'apprennent leur tour, se confient les ficelles de métier que l'on n'apprend dans aucune école.
Pour sûr, commente Henri, c'est pas comme à l'exposition universelle, mais j'aime bien.
Ici, pas d'invention ou de machine futuriste, explique le géant, seulement des hommes et des femmes. Pas de beaux costumes ni de manières artificielles, mais la vérité de ce que nous sommes, humains, libres et sans phare. Tout ce qui compte, c'est ce que tu sais faire et l'effet que cela produit sur les autres.
Conrad vient d'apercevoir Pierre qui revient enfin. Vincent n'est pas avec lui.
Le menuisier pose la main sur le bras d'Henri, dont l'attention est plutôt concentrée sur les jeunes femmes qui dansent en lançant leurs jambes en l'air et en faisant voler leurs jupons.
Préviens Gabriel, je descends à sa rencontre.